Deutsche Welle Forum des Cultures.
Le Djassa a pris feu est l'un des rares films africains à avoir été présenté lors de la Berlinale 2013, le festival du film international de Berlin. Tourné dans les quartiers populaires d'Abidjan, il montre comment un jeune homme plonge progressivement dans la délinquance. Lonesome Solo, le réalisateur, n'a pas pu venir à Berlin faute de visa. Mais le producteur Philippe Lacote était présent lors du festival. C'est l'invité de ce Forum des Cultures. Bonjour et bienvenue. Le Djassa a pris feu, c'est l'histoire de Tony, alias Dabagao, un jeune vendeur de cigarettes qui cherche à survivre dans le quartier de la rue Princesse à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais petit à petit, il va vouloir s'imposer dans le ghetto, en jouant au poker d'abord, puis en commettant l'irréparable. Il va alors se lancer dans une course-poursuite avec Mike, un policier qui n'est autre que son propre frère. Retour sur la jeunesse du film avec Philippe Lacote.
En fait, en tant que producteur, ça fait un moment que, venant de Côte d'Ivoire, j'avais envie de faire quelque chose autour du Nouchi, autour de ce mouvement de la jeunesse ivoirienne. Et donc voilà, on s'est retrouvés à un moment. J'ai invité une cadreuse suisse qui est Delphine Jacquet. Et j'ai fait une rencontre avec Lonesome Solo à Abidjan. Et ça a produit le Djassa a pris feu.
Donc le Nouchi, pour nos auditeurs non ivoiriens, qu'est-ce que c'est?
Le Nouchi, c'est l'argot ivoirien. C'est un argot qui est parlé par presque toute la jeunesse ivoirienne. C'est un mélange de mots de langue locale. C'est un mélange avec du français, avec de l'anglais. Et avec des expressions aussi qu'on invente dans le quotidien comme ça d'Abidjan. C'est une langue très vivante qui est utilisée dans la musique par Nash par exemple, qui est une rappeuse, par Billy Billy qui est un autre rappeur satirique. Et voilà, on avait envie que ça existe au cinéma.
Et donc c'était un petit peu frustrant, j'ai vu pour les spectateurs allemands qui lisaient les sous-titres en anglais dans la salle, parce qu'effectivement on se rendait bien compte que tout n'était pas traduit, mais ça aussi c'était une volonté, parce que le narrateur, parce qu'il y a donc un narrateur dans votre film, raconte, et puis hop, on avait une petite phrase de traduction.
Mais oui, parce que si on voulait tout traduire, ça serait un journal, quoi. On n'arrêterait pas de lire à l'écran, donc effectivement... En français, on arrive à attraper beaucoup plus les subtilités du narrateur et dans les autres langues un peu moins. Mais il y a le phrasé quand même qui passe, même si on ne comprend pas la langue, on sent bien qu'il est en train de jouer avec les mots, comme le slam, comme le rap. Et par exemple, à Toronto, quand on l'a montré au Festival de Toronto, le film, ils étaient très sensibles à ça.
Oui, j'allais vous dire, ça fait vraiment penser au slam. Et de toute manière, tout le film est très rythmé. On entend de la musique ou des sons systématiquement. Quand ils se baladent aussi dans la rue Princesse, on passe devant les maquis, on entend toute la musique. Donc ça aussi, ça fait partie de cette culture des jeunes d'Abidjan.
Oui, mais on a travaillé avec le réel. C'est une fiction, mais on a travaillé avec le réel. Donc on a utilisé le maximum de choses qui sont dans l'espace ivoirien. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on entend la musique quand on marche dans la rue. Moi, quand je suis chez moi, j'entends la musique de la rue Princesse dans ma chambre. Donc voilà, c'est un espace sonore qui est autre. Et on a essayé juste de le restituer et surtout de ne pas l'enlever, en fait, d'utiliser. Voilà. Et puis en même temps, comme ça, on faisait la bande originale. En même temps, c'est pas mal.
Et donc, alors oui, concrètement, donc vous avez eu cette idée, vous avez fait venir cette Suisse, et donc après, vous avez décidé de tourner avec des vrais acteurs.
Oui, avec des vrais acteurs. En fait, on a réuni tout le monde, une trentaine, quarantaine de personnes, parce que tous ces gens-là viennent du même quartier, qui s'appelle Ouassakara, qui est dans la banlieue d'Abidjan, Yopougon, la plus grosse banlieue d'Abidjan, la plus grosse banlieue francophone d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, on a décidé de lancer un film, comme ça, de dire, OK, on y va, on fait un film. Donc, en une semaine, on a dit, OK, on commence l'écriture, on prépare la caméra, on lance le casting, on cherche les décors, les accessoires et tout. Et en une semaine, on a écrit une sorte de trame narrative. En fait, moi, j'ai raconté au réalisateur Lonesome Solo l'histoire de Rocco et ses frères, le film de Visconti. Je dis, je sais pas pourquoi, mais une histoire de frères et tout ça. Et puis, à partir de ça, il a sorti cette histoire d'un frère qui est voyou, et du grand frère qui est policier, et comment ils vont se rencontrer.
Et donc vous dites que vous aviez une trame narrative, mais pas vraiment de scénario écrit, donc est-ce que ça veut dire qu'il y avait aussi une grande part laissée à l'improvisation?
Non, en fait le scénario était très mince, mais les dialogues étaient écrits. Les dialogues étaient écrits, et au départ on a eu l'impression que les acteurs improvisaient, mais à la fin quand on est arrivé au montage et qu'on a regardé notre scénario. En fait, ils disaient les dialogues qui étaient écrits, donc ils avaient vraiment bossé. Et par contre, comme c'est le Nushi, on n'avait pas envie que le texte soit figé. Ils mettaient quand même quelques petits mots quand même pour changer la chose, parce que le Nushi, c'est une langue tellement vivante qu'il ne faut pas la répéter, en fait. Il faut, elle se crée quand on la dit. Voilà, donc on voulait garder ce côté instantané comme ça.
Et donc l'idée donc, du narrateur qui raconte ce qui s'est passé, ce qui va se passer, c'est venu d'où ?
Bah, c'est venu à la fin. Voilà. On a tourné le film pendant 11 jours, au bout de 9 jours, parce qu'en fait avec Lonesome Solo, avec la cadreuse Delphine Jacquet, on regardait toutes les nuits, on regardait les rushs et on voulait aller vite. Donc on avait 6 prises, on disait ok, on en garde 2. Chaque soir on éliminait, on les effaçait même pour pas se dire ah, on va y retourner et tout ça. On voulait faire un film vite. Au 9e jour on s'est dit il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il faut quelqu'un qui raconte cette histoire. Et là, on a pensé au Nushi, au mouvement Zouglou, à cette danse qui est proche de la capoeira, des choses comme ça. Et du coup, ça a fabriqué ce personnage. Donc, on a attendu que le narrateur qui s'appelle Gouverneur revienne de voyage parce que c'est lui le maître du Nushi. Et voilà, on a fait ça en 2 heures.
Et du coup, est-ce que vous avez aussi demandé à des gens dans la rue de faire les figurants ? Est-ce qu'il y a des scènes comme ça qui se sont créées sur place, quoi, au moment du tournage ?
Oui, il y a plusieurs scènes qui se sont créées comme ça. Par exemple, il y a la scène du meurtre. Bon, les gens n'ont pas vu le film, mais bon, la scène du meurtre qui est importante dans le film. On est devant la boutique du Mauritanien, c'est un super décor. Mais on est devant la boutique du Mauritanien parce que c'est le seul endroit où il y a une ampoule. Hein. À ce carrefour, donc le Mauritanien à la fin il joue dans le film, parce qu'à un moment il y a quelqu'un qui s'adresse à lui, qui lui pose des questions pour savoir s'il a vu ce qui s'est passé, et voilà, donc à chaque fois qu'on allait quelque part, on intégrait les gens qui étaient là, on intégrait les accessoires qui étaient là.
Et alors justement comment est-ce qu'ils ont réagi les gens, parce que vous le disiez, en Côte d'Ivoire il n'y a pas énormément de films qui sont produits, c'est un joli euphémisme, donc comment ils réagissent les gens quand vous débarquez comme ça, avec une caméra, donc vous faites un film?
Bah, ce qui est magnifique avec le cinéma, c'est que c'est possible partout. Voilà. Donc en fait, les gens n'étaient pas du tout surpris. Ils trouvaient ça bien. Ils trouvaient ça bien qu'on mette en place quelque chose et que des gens s'activent autour de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était bien. Il y a eu un très bon accueil. Après, ils viennent toujours pour savoir si c'est pas politique, de quel sujet on parle et tout. Mais là, on était dans la fiction, donc tout allait bien. Et voilà. Donc on a eu plutôt un bon accueil.
Faut être dépêché, donne-moi une filette là.
Oh. Bonsoir, y'a l'office.
Tu me reconnais, non ?
Non, je te reconnais pas.
Tu me reconnais pas, quoi ?
Non, non.
Oh, quoi, nous, là, toi, tu me reconnais pas aujourd'hui.
Je te reconnais pas ? Ou bien ?
Comment toi, tu me reconnais pas ? T'as vu quoi, ta petite, tu me reconnais pas, quoi ?
Cet extrait est la scène clé du film dont parlait Philippe Lacote. C'est à partir de là que l'existence de tous les personnages va basculer. Celle de Tony, comme celle de sa sœur Ange et celle de leur frère Mike. Ange travaille le jour chez un coiffeur et la nuit comme prostituée. Leur père est mort, leur mère n'a pas d'argent et Mike est le seul de la famille à avoir eu la chance d'aller à l'école, ce qui lui a permis de devenir policier, une réalité ivoirienne que le producteur Philippe Lacote voulait mettre en évidence.
On n'a pas voulu faire un scénario original, on a voulu faire un scénario commun, c'est-à-dire raconter l'histoire des jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, depuis 2002, depuis la rébellion avec la guerre et même avant, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui le sentiment en Côte d'Ivoire, au sein de leur propre famille, d'avoir été sacrifiés. D'avoir été sacrifiés au profit d'un frère, au profit d'un deuxième mariage, au profit d'un frère qu'on fait partir en Europe. Et le personnage de Tony, alias Dabagaou, c'est quelqu'un qui ne supporte pas cette injustice-là, ce sacrifice-là. Et donc il n'arrive pas à passer au-dessus de ça, et c'est ça qui va l'amener jusqu'à. Donc on voulait vraiment raconter quelque chose. Et policier, aujourd'hui, policier, c'est le rêve de presque tous les jeunes en Côte d'Ivoire, parce qu'un policier peut racketter dans la rue, un policier a une maison qui est payée par l'État. Voilà, donc on avait envie de raconter cette vraie réalité ivoirienne.
Et comment vous avez fait pour financer ce film ?
Ben, ce film étant imprévu au départ, donc les financements étaient aussi imprévus, donc on est parti comme ça, avec les moyens du bord. Et quand on a terminé le film avec du matériel qui est par notre coproducteur français Banshee Film, mais c'était du matériel très simple. Et quand on a terminé le film, on a eu une aide à la finition de la francophonie de 15 000 euros. Donc voilà, le film a coûté une trentaine de mille d'euros avec du matériel, mais 15 000 en numéraire. Donc c'est un film vraiment qui est très pauvre.
Et est-ce que vous pourriez nous parler aussi donc, du collectif pour lequel vous travaillez, enfin Wasakara Productions ?
Wasakara, c'est un collectif d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs, de techniciens qu'on a créé en 2002. En 2002, quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu un couvre-feu, les bars étaient fermés, du coup on ne savait plus trop quoi faire. Donc on discutait beaucoup et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? On s'est dit, il faut créer une structure pour faire plein de films. Voilà, donc ça a été une utopie comme ça. Et on a résisté à toute la crise ivoirienne parce qu'on n'a pas explosé, même si chacun a ses opinions politiques, a ses origines ethniques. Et donc ça, c'est bien, parce qu'on vient tous du même quartier, parce qu'on se connaît dès le départ. Et donc là, aujourd'hui, on a produit 4-5 films sur l'Afrique de l'Ouest. Et puis voilà, on continue, quoi.
Et quels sont vos projets, alors, dans un avenir proche?
Sur Ouassakara, dans un avenir proche, il y a un projet qu'on est en train de faire sur lequel je suis réalisateur, qui s'appelle Run. C'est une fiction, long métrage, qui est complètement lié à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et le personnage de Run va être interprété par le même acteur que le Djassa, Abdoulkarim Konaté. Et Run, c'est juste l'histoire d'un jeune homme qui se transforme en fou, comme en Afrique, les fous qui circulent dans la rue. Il se transforme en fou pour tuer le premier ministre de son pays. Voilà, ça commence comme ça.
On n'en saura pas plus pour l'instant.
Et après, ce jeune homme s'enfuit, c'est pour ça qu'il s'appelle Run. Et tout au long de sa course, il y a des flashbacks et on raconte toute son histoire. Et à travers sa trajectoire, c'est les 20 années de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire qui sont racontées.
Et donc là, effectivement, vous participez à la Berlinale, vous avez parlé de Toronto, vous avez parlé de présence internationale. Est-ce que vous avez aussi l'intention, ou peut-être que ça a été déjà fait, de montrer ces films en Côte d'Ivoire?
Mais en Côte d'Ivoire, on est très vu parce qu'on est piraté. Donc voilà, on est très vu, ça ne nous rapporte rien, mais on est très vu. Donc le film commence à être culte comme ça en Côte d'Ivoire, pas chez les intellectuels, mais chez les gens de la rue. Voilà, donc on est fiers déjà que les Ivoiriens regardent un film qui vient de là, qui est fait là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'économie sur place, il n'y a pas de moyens sur place de rentabiliser ces films. On verra.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Philippe Lacote d'en avoir été l'invité. C'était Audrey Parmentier au micro. Vous pouvez retrouver ce forum des cultures ainsi que toutes nos émissions sur le site internet dw.de/français. Bonne suite de programme sur les ondes de la Deutsche Welle.